Le purgatoire des animaux, écrit et compté par Fadam. Je me suis retrouvé face à quatre juges, ou plutôt quatre animaux. Du moins, l'un avait une tête de mouton, son voisin avait une sacrée tête de cochon, l'autre à sa gauche, un bec robuste et des plumes. Et le dernier, le dernier était fort comme un bœuf, au sens littéral. Comment j'ai su qu'ils étaient juges? Bonne question. L'intuition sans doute, car deux minutes plus tôt j'étais sur ma Ducati, le long de la route qui mène à la ronde, un village fortifié, posé à même un pic rocheux. J'ai toujours aimé les vieilles motos. Ma mère s'en est toujours plein, au ciel surtout. Dès que j'ai eu 18 ans et quelques économies, j'ai acheté une Vespa. À l'époque, j'allais doucement. En allant vers la ronde, il y a un virage serré, mais que je connaissais bien. Je l'ai pris, comme d'habitude. En face est arrivée une Seat, trois jeunes à bord. Ils ont pris le virage par le centre. J'ai esquivé et j'ai perdu le contrôle. Oh, pour ma mère, ça va rien changer du tout de savoir que c'était de leur faute et pas de la mienne. Je crois que mon casque s'est fendu en deux contre le muret en pierre. Mon corps doit être quelque part étendu sur la roche, en contrebas.
Monsieur de Vrero.
J'ai relevé la tête. Je sentais un liquide encore chaud couler le long de ma tempe. Il avait presque la teneur d'un gel ou d'une gélatine. Il y avait peut-être quelques grumeaux de cervelle avec. Je n'ai pas cherché à poser ma main pour savoir. Je suis mort, c'est ça?
Oui,
a dit le poulet.
Sans nul doute. Vu l'état de votre sature, vous réincarner serait tout à fait inhumain. Quelle drôle d'expression. Nous y reviendrons. D'ailleurs, pendant que j'y pense, c'est peut-être inutile de parler comme ça.
On peut parler tout à fait normalement.
Essayons de faire ça vite.
Est intervenu le bœuf.
Il y a déjà la queue.
Et je me suis retourné, mais j'ai vu personne. Juste un paysage désertique de sable et d'étoiles. Le sol était mouvant. Eux étaient bien assis à une table, mais elle semblait irréelle, dématérialisée. Pourtant, je devinais qu'elle était faite d'un bois robuste. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? J'ai posé mon regard sur le mouton. Ses yeux m'indisposaient au plus haut point, son iris surtout. J'avais du mal à soutenir le regard et à me concentrer pour répondre. « Eh bien, monsieur de Vrero, vous étiez plutôt du genre bavard et fanfaronneur de votre vivant. »« Est-ce que je suis en train de rêver ?»«
Oh non, vous ne rêvez pas !»
a dit le cochon de sa voix graveleuse et encombrée de feuilles de chou.
« Ce purgatoire est très sérieux !»
Et sur ces mots, il a sorti une pochette cartonnée et mis des petites lunettes. C'était grotesque vu la taille de son groin.
« Oui !» Nous avons là votre historique culinaire. Chapeau l'artiste, vous étiez un vrai goinfre.
J'ai pouffé un peu de rire. C'est ridicule. Venant d'un porc, c'était fort de café. Mais j'ai vite réfréné mon élan. Le poulet et le mouton se sont penchés pour mieux lire. Ils ont levé les sourcils, ou ce qui leur servait de sourcils, bien haut. Puis ils se sont adossés sur leur dossier de chaise, les bras croisés. J'ai pas osé regarder le bœuf. Mais je suis sorti de mon apathie. Je comprends pas. C'est quoi un historique culinaire?
C'est une archive. Toutes les fois où vous avez mangé de la viande se trouvent consignées ici. 30 ans de consommation soigneusement mis sur papier, monsieur de Vrero.
C'est absurde, je veux dire. En quoi est-ce que je dois être jugé pour ça? Et puis, qui me dit que vous n'avez pas fait d'erreur? Tout ça est burlesque, je m'en vais. Mais j'avais beau essayer d'avancer, mes pieds faisaient du surplace. J'avais vécu cette sensation bien des fois en rêve. C'était si frustrant et désagréable. Mais ça finissait toujours par me réveiller. Or là, je ne me réveillais pas.
« Vous voulez peut-être qu'on vous indique la station de métro la plus proche ?»
a dit le bœuf d'un ton sarcastique. « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» que j'ai dit, agacé et un peu inquiet. « Qu'allez-vous faire de moi ? M'envoyer en enfer ? Fallait bien que je mange, nom d'un chien !» Ils se sont regardés. Leurs lèvres se sont mises à trembloter. Puis ils ont éclaté de rire, en cœur. Et vas-y que ça beugle, que ça grogne, que ça glousse et que ça belle. Je les ai regardés se fendre la poire, énervés, incapables de bouger. Puis j'ai fini par les regarder avec un air d'enfant triste.
Nom d'un chien! Vous avez de la chance, monsieur de Vrero. Vous avez de la chance qu'on mange pas de chien par chez nous. Je vous laisse imaginer l'effet si le juge avait été un chien. Mais passons.
Attendez une minute. Vous êtes en train de me dire que je vais être jugé par quatre bêtes ? Cette fois, ils ont arrêté de rire. Je crois que je venais de les offenser. Ou peut-être qu'ils ont eu pitié de moi, comme si je n'étais qu'un cas désespéré. Un de plus. J'ai voulu rattraper le coup et j'ai dit « Vous ne devriez pas examiner mon âme, plutôt ?»« Je sais pas, moi, voir quels sont mes péchés, mes démons et mes vertus. » Sous-pesez le tout et arrivez à une conclusion. Laissez-nous faire notre boulot, est intervenu le mouton. Ce n'est pas un humain qui va nous apprendre à gérer quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à regarder l'état des sols, de l'air et des mers dont vous avez la charge. Vous êtes mauvais gestionnaires, vous autres, alors épargnez-nous vos conseils. Cette fois, j'ai rien trouvé à redire. C'est vrai qu'on est de sacrés dégueulasses tout de même. En cet instant, j'ai repensé aux plages de Barcelone, où je vais 2 ou 3 fois l'an. Et aux guiris qui laissent canettes, bouteilles en plastique et mégots à même le sable. Comme si ça n'avait aucun impact. Oh, il y aura sans doute quelqu'un pour ramasser. Non, il y aura le service public et quelques volontaires. Et puis il y aura surtout des résidus, pas traités ou pas à temps, qui regagneront la mer, les égouts, la terre.
Monsieur de Vrero,
a dit le poulet.
Restez avec nous. Je comprends votre intervention. Je vous félicite si vous n'avez commis aucun meurtre à l'endroit d'un autre humain. Tenez, je vais même parler au nom de ce purgatoire. Félicitations si vous avez appelé votre mère tous les jours pour lui dire que vous l'aimez. Que vous n'avez commis aucun adultère. Félicitations si vous êtes du genre patient, cordial et serviable. All righty then, comme dit l'autre. Mais comprenez. Le péché et la vertu sont des inventions humaines sans grande importance au vu du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui.
J'étais sidéré. Comment ça, une invention humaine sans grande importance? J'ai dû défendre mon beefsteak. Pardonnez l'expression. Une minute, messieurs les juges. Ou mesdames, je ne voudrais pas offenser qui que ce soit. La vertu n'aura aucun poids dans le jugement que vous vous apprêtez à rendre?
Non,
a dit le bœuf. Mais... Ça n'a aucun sens. Je suis plutôt du genre sympa, moi, je refuse d'être jugé par vous.
Calmez-vous, monsieur de Vrero, a dit le cochon. Vous n'avez pas votre mot à dire. Juste à vous taire et écouter. Nous allons rendre une sentence imminente et votre âme ne fera qu'obéir. Nous pourrions vous clouer le bec, d'ailleurs. Ce serait plus simple.
Le poulet a tourné la tête vers son confrère, les yeux levés au ciel. Histoire de dire, épargne-nous tes jeux de mots, la journée va être trop longue sinon.
Le cochon ne paraissait pas mécontent de lui. J'ai regardé au sol, moi, désemparé. Je devais répondre quelque chose, avant d'être réduit au mutisme et sentencié. Alors j'ai dit ce qui me passait par la tête.
Attendez, vous êtes en train de me dire que c'est ça la fin?
Qu'on est, qu'on vit sans but réel et qu'on finit devant un mouton, un cochon, un bœuf et un poulet pour régler la note? C'est absurde. Trop absurde.
La vie est absurde, monsieur de Vrero, a dit le mouton. Alors pourquoi pas, oui. Bien, ce dialogue est fort sympathique, mais il arrive à son terme. Vous, Juan de Vrero, vous avez au cours de votre existence consommé...
L'animal a pris le feuillet que lui a tendu le cochon.
1568 fois du bœuf, 897 fois du mouton, 3247 fois du cochon, sans compter la charcutaille. Et tenez-vous bien, roulement de tambour, sonnet trompette, 5268 fois du poulet. Sans parler des œufs, bien sûr. Et naturellement, vous avez acheté aux grandes surfaces plutôt qu'aux petits commerçants du coin. Je peux vous donner l'équivalence de tout ça au kilo, si vous préférez. Et je peux même vous dire toutes les fois où vous avez vomi cette viande par excès de piña colada, ou de tequila. Mais je pense que vous avez compris. En gros, vous avez commis un génocide à vous seul. À ce moment de l'entretien, j'étais de marbre. La boule que j'avais dans l'estomac a pris la forme d'un malaise généralisé dans tout mon corps. J'avais sans doute le teint blême, pas parce que j'étais mort, mais parce que j'avais envie de vomir. Les chiffres me semblaient abyssaux. Et si on les ajoutait à ceux de ma mère, par exemple, ça devait faire froid dans le dos. Ma mère a 60 ans passé, imaginez. Grosse mangeuse, elle en a bouffé de la viande au cours de sa vie. Et mon père, ce sagouin. Ah, Dieu merci, il est mort jeune.
Honnêtement, je pensais pas dire ça un jour, mais c'est ce que j'ai pensé sur le moment. J'avais beau essayer de me consoler, de me dire que la protéine animale est indispensable, rien à faire. Je sombrais sous le poids de la culpabilité. La tentation avait été trop forte. Des restaurants partout. Et la livraison à domicile n'avait rien arrangé.
« Ah, c'est tout de suite autre chose d'avoir les chiffres, n'est-ce pas ?»
a dit le poulet, particulièrement concerné pour des raisons évidentes.
« On appelle ça l'effet cumulé !»
est intervenu le cochon. Enjoué et désireux de nous parler de sa dernière lecture.
« C'est comme avec le café. Vous achetez un café à 2,50 du lundi au vendredi à peu près toutes les semaines pendant 20 ans. Et à la fin, ça fait une belle petite somme. »
Le cochon était en train de taper sur sa calculette, mais le mouton la lui a arraché des mains. De toute évidence très agacé.
« Excusez mon collègue. Il lit beaucoup trop de livres de développement personnel et il en oublie l'essentiel. Monsieur Devrero, voulez-vous ajouter quelque chose avant que nous prononcions la sentence ?»
J'ai relevé la tête. J'étais en sueur. J'avais l'impression que toute la viande consommée 30 ans durant ressortait par les pores de ma peau sous la forme d'un gaz toxique. J'imaginais toute l'eau, tous les arbres abattus et l'énergie dépensée pour produire cette viande. Je sentais presque la détresse et le stress des bêtes dans leurs enclos. Le veau qu'on arrache à sa mère. 3 ans avant ma mort, j'avais visité un élevage. Il y avait un petit veau aux yeux implorants dans un enclos de 2 mètres par 2. Je m'étais approché pour le caresser et d'un geste désespéré, il avait tété les doigts de ma main en pensant y trouver du lait. Ça m'avait fait quelque chose. Je n'ai jamais vraiment oublié la scène, je crois. Les souvenirs se pressaient en moi. Ce village de montagne, visité un été, avec le petit cochon qui pleurait derrière la clôture en bois, parce qu'il savait qu'on venait l'abattre.
« Juan !» a dit le cochon. « Juan, si ça peut vous aider, vous n'êtes pas le pire qu'on ait eu aujourd'hui.
» Je regrette, je ne savais pas. Fallait bien que je mange. Mais vu leur réaction, j'ai compris qu'ils avaient entendu ça bien des fois.
Une bonne entrecôte,
a dit le bœuf.
Une bonne entrecôte, hein? C'est si bon, pas vrai? Avec des frites et la moutarde de Dijon qui va bien. Comment résister? Oh, pas grâce au tofu en tout cas, hein? C'est dégueulasse le tofu, on est d'accord.
Et les chicken fingers, a dit le poulet. Avec du ketchup, une bonne pinte en terrasse et un petit pan tomaca. Ça aussi, ça se refuse pas. Vos amis vous auraient pas pardonné d'être rabat-joie.
Pas vrai?
Pourquoi penser quand on peut juste manger et être heureux?
Et puis il y a la recette de grand-mère. Le ragoût de mouton à l'ancienne. Je vous laisse deviner qui est intervenu. La meilleure cuisine du monde, pas vrai? Il y a eu un silence. Un vent cosmique a balayé légèrement les dunes de sable et d'étoiles.
Et enfin, a dit le cochon, le meilleur de tous les mets. Le plateau de charcuterie. Saucisson, chorizo, andouillette, pâté, rillette, jambon. Le tout sur du pain de campagne. Et jamais sans cornichon, on est bien d'accord.
J'avais envie d'acquiescer. J'avais presque faim à la simple idée de m'empiffrer. Et là, j'ai compris. Ce n'était peut-être que la quantité le problème. Du moins une partie du problème. Peut-être que j'aurais dû simplement en manger moins. Que j'aurais dû réfléchir, en dehors des carcans, sans égard par rapport aux traditions familiales ou aux publicités. Peut-être que par ma seule volonté de consommateur, j'aurais pu inverser le cours des industries. Influencer les autres autour de moi. Insuffler un changement. Être une bonne fois pour toutes le changement que je voulais voir ailleurs. Mais j'étais ignorant, volontairement sourd et cruellement paresseux. Putain d'inutile, que je me suis dit. Depuis quand t'as besoin d'engloutir autant de viande? Ah, et puis merde. Allez savoir si un médecin serait pas venu m'annoncer un cancer à la fin de ma misérable existence de glouton.
Excès de viande, monsieur de Vrero. Tous ces animaux morts dans des circonstances douteuses ont fini par vous faire payer le prix cher. Votre corps a absorbé le stress des élevages. Il se tue et se consume de l'intérieur à présent.
Ah. Si encore j'avais chassé ma propre viande. Comme un indien old school. Une viande fraîche, nécessaire. Car rarement obtenue et durement bataillée. Sans artifice ni toxicité d'aucune sorte, en pleine nature. Mais c'est inconcevable désormais. C'est vrai que c'est pas pratique d'aller chasser avant d'aller au bureau, ou juste après avoir déposé les enfants à l'école. Mais parlons franchement, d'humain à humain, la viande qu'on achète n'est pas la viande qu'on chasse. Elles sont de nature différente. Et nous le savons dans nos gènes. Nous le savons. Oh, entre les deux, il y a sans doute les petits producteurs qui soignent les bêtes et leur donnent une mordigne. La traçabilité, les labels qualité. Encore qu'il faille le budget pour se payer une telle viande. Et que tant qu'on ne se rend pas sur place pour voir l'élevage de ses propres yeux, on n'est jamais sûr de rien. Ah, pourquoi faut-il que ce soit si compliqué? Je crois que le plus simple aurait été d'être végétarien tout compte fait. Peut-être. Fort bien, fort bien. Mais quelle importance, puisque je suis mort à présent. Vous allez m'envoyer en enfer, alors? Ai-je dit d'une voix fébrile, honteuse.
Non, cher de vrai roux,
a dit le bœuf.
Vous allez purger une peine utile.
Il y a eu un autre silence. Ils m'ont regardé intensément, pour voir si j'allais deviner à quelle sauce j'allais être mangé.
Vous allez être réincarné,
a dit le poulet. À l'angoisse succédait le soulagement. La réincarnation, ça va. Je peux me faire à l'idée. Visiblement, le poulet était trop ému. Alors le mouton s'en est chargé. Vous allez éclore dans une heure. Dans un couvoir, un élevage de poulets en Vendée. Vous ne connaîtrez jamais votre mère. Un humain vous engrossera. De votre naissance jusqu'à l'abattage. Vous vivrez serrés les uns contre les autres. Vous n'aurez peut-être pas assez de nutriments pour vous remplumer. Dans le pire des cas, vous ne serez pas assez grand pour atteindre la bouffe en hauteur. Vous vous nourrirez alors des déjections fraîchement déposées au sol par vos camarades. Vous peinerez à marcher, à respirer, à cause de l'air vicié et putride. Vous attendrez la mort hébétée, sans comprendre le sort qui vous a cruellement jeté là, entouré de fientes et de mouches. Et l'humain qui vous engrossera ignorera que vous êtes vous aussi un homme réincarné pour purger une peine. Et le moi qui séparera votre naissance de votre mort programmée vous aura paru une éternité. Nous ne vous envoyons pas en enfer, monsieur de Vréraud. Nous vous envoyons chez les hommes. À ce moment-là, je me suis réveillé. J'ai ouvert un œil. Le bitume était gorgé de soleil et d'essence. Ça sentait fort. La Seat encastrée dans la roche. Un automobiliste avait garé sa voiture en travers de la route un peu plus loin avec les warnings. Il faisait de grands signes à l'horizon. Je sentais plus mes jambes. Je crois que ma colonne et mon cerveau fonctionnaient encore. J'ai entendu les sirènes au loin. Fallait pas bouger. J'ai refermé les yeux et attendu qu'ils viennent me ramasser. Quelques mois plus tard, j'ai perdu l'usage d'une de mes jambes, amputée jusqu'au genou. Ma mère m'a dit quelque chose de drôle et un peu abrupt.
« Estime-toi heureux d'être encore en vie, mon fils, et réjouis-toi un peu, car tu es né dans un monde de prothèses. On trouvera l'argent pour t'en faire une. »
De mes derniers jours passés sur le lit d'hôpital, je n'ai qu'une vague impression. Ils m'ont rendu visite, les tantes, les cousins, les amis. Je n'avais pas vraiment envie de les voir. Et quand je suis sorti, avec mes béquilles et mes 11 kilos en moins, j'ai eu la sensation que ma jambe n'était pas partie seule, que quelque chose était parti. Encore que je n'aurais su dire quoi, ma perception des choses avait changé. Ma mère et deux de mes amis étaient là, dans le hall. Ma mère portait cette robe à fleurs immondes. Accolade, quelques pleurs, béquilles dans le coffre et nous voilà partis. Elle avait organisé un barbecue pour mon retour à la vie. J'ai avancé péniblement dans l'herbe grasse et légèrement boueuse. Elle avait même embauché quelqu'un. Un homme à la panse généreuse qui suait beaucoup du front. Il ventilait la grille pour repousser la fumée. Tout près, un étal de plats. Et dans les plats, des côtelettes, des saucisses aux herbes et des chipots, des cuisses de poulet, du travers de porc, des brochettes et quelques légumes pour la déco. « Juan !» a dit ma mère. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai hésité. Oh, j'aurais pu les sermonner. Mais devenir rabat-joie qu'ils auraient rien dit. Ils se seraient dit que c'était à cause du handicap que j'avais du mal à encaisser, qu'on pouvait bien passer pour cette fois. J'avais les yeux dans le vide. « Tiens, » a dit ma mère que je n'avais pas vu partir, « t'as besoin de reprendre des forces. » Je me suis défait d'une de mes béquilles et je suis resté là, un hot-dog dans la main. En temps normal, je me serais dit que ce serait du gâchis de jeter ça. Que maintenant que l'animal était mort, fallait honorer sa chair. Mais honorer quoi? Sa vie sans dignité? Sa mort programmée? Ou les bénéfices de l'entreprise qui a orchestré le tout? Honorer quoi? Je savais très bien ce que ça impliquait de penser comme ça. La demande fait l'offre. Autant, voire plus, que l'offre fait la demande. Pfff, j'ai toujours eu cette extraordinaire faculté de me mentir à moi-même. Quand j'y pense, c'est une prouesse. Imaginez un instant. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous êtes si fin manipulateur que vous arrivez à le faire quand même. Manipuler les autres, c'est une chose. Mais se manipuler soi, c'est du grand art. Je suis resté indécis, mon hot dog dans la main. Tandis qu'on venait m'embrasser et me dire des mots gentils.